À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour, bonsoir, c'est l'été, donc on est à la limite entre les deux maintenant.
Bonsoir.
Hein, vu la clarté qu'on n'a pas eu cet été par contre. Alors, cher Laurent, on est reparti pour un tour. Et Serge, tu vois, Laurent a pris goût à venir à nos émissions, puis je crois que maintenant il va être...
Un pilier.
Un pilier, bien payé, mais il va être un pilier donc de cette émission. Alors, là, on avait fini la saison dernière en parlant beaucoup du Mont-Cenis, de vallée piémontaise, des deux côtés du Piémont et de la Savoie, etc., etc.
On va continuer.
On va continuer et on va prendre un peu la chronologie de notre été à nous. Et donc, tu vas peut-être nous expliquer, Serge, ce que vous avez fait en fin de saison, avec qui, comment, où, sous quelle forme, dans le prolongement, on va dire, de ce qui est proposé à INIS, notamment sur les cours d'italien, mais pas que. Alors, on t'écoute.
Voilà, dans le cadre des cours d'italien, j'ai organisé un séjour d'immersion pour la deuxième année consécutive, qui avait lieu à la Fontana de Torres. Torres, c'est un petit hameau vers Cesena Torinese, donc c'est à 200 km d'ici, c'est pas très loin. Et nous avons rencontré deux jeunes qui tiennent ce refuge, auberge, formidable, qui se sont vraiment décarcassés pour m'aider à organiser. Et tous les trois, on a organisé un séjour. Donc, nous étions cinq, on fait une voiture.
Hein. Oui, alors le principe du séjour, d'ailleurs, est de groupes réduits, on va dire.
Le principe, c'est qu'il n'y a pas de date dans l'année. Quand une voiture est pleine, eh bien, on part. Donc là, nous étions cinq.
Bon, mais c'est un bon chiffre.
C'est un bon chiffre, il ne faut pas être 54. Donc, la base de ce séjour, bien sûr, c'est de parler... de suivre une conversation et surtout de s'intégrer dans la culture locale. Alors, il se trouve que le Piémont et ses hautes vallées de Susa et puis à côté le Val Chisone sont des, on peut dire un peu des terres de résistance et nous nous sommes vraiment immergés dedans. Alors, idées de l'emploi du temps que l'on a fait. Alors la Fontana de Torres, c'est ça se dit refuge, mais comme on peut y accéder en voiture, je n'appelle pas ça refuge, moi, mais c'est un peu le climat d'un refuge. C'est un hameau donc, que nous avons visité avec Ferruccio qui nous recevait, et sa compagne s'appelle Natalia. Et donc, bien sûr, Ferruccio nous a parlé en italien. Ensuite, nous avons visité le musée vaudois de Parly. J'avais demandé à ce que les visites soient en italien, ce qui s'est fait. Ensuite, on a visité un centre de rencontre vaudois, qui est dans la commune de Parly aussi. La visite aussi de la mine de talc à Parly. Il y a une mine souterraine de talc, donc il y a une galerie touristique, mais les commentaires étaient en italien. Et le fort de Finistrelle aussi, qui est un gros fort sur le Val Chisone. Donc tout ça, c'était pour l'activité du matin et de l'après-midi. Oui, j'ai oublié le stand des opposants au TAV, le train à grande vitesse italien.
On en avait interviewé. Hein.
Voilà, c'est la personne que l'on avait interviewé. D'accord. Dans l'émission du mois de juin qui nous a reçus sur place. Et alors, pour être sûr de bien être immergé, le soir, j'avais invité des gens à venir manger. Donc, c'est assez convivial parce que le principe que j'avais demandé, puis ça a été respecté, on leur paye le repas et puis ils viennent. Donc, Alors, nous avions Cesar Alvasi, qui est le résistant que l'on avait interviewé, qui était venu manger avec nous et qui a été très content de cette attention. Il est parti limite pleurant très ému. On a fait venir aussi Renato Sibille, qui est une sorte d'intellectuel local, plutôt dans littéraire, mais qui s'occupe de théâtre et d'associations. Et puis aussi tout simplement les parents de Natalia et Ferruccio, qui, lui, le père, avant de prendre ce refuge, travaillait chez Primifarina et il était syndicaliste. Donc on avait un emploi du temps qui était assez costaud.
Avec une brochette de gens différents.
Et après coup, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être... on avait aussi un soir Maria Anna d'une association qui s'appelle La Valado, qui nous a fait un exposé sur les escartons, donc avec qui nous ferons l'émission probablement le mois suivant. Et en italien, bien sûr. Et quand on relit un peu tout ça, donc cette résistance, bon, de la résistance, il y en a eu un peu partout, mais cette résistance, ces vaudois, ces escartons, ces notaves, on s'est demandé, sans y apporter de réponse, est-ce que le Piémont ne serait pas une terre de résistance, tout au moins dans sa partie montagneuse. Et alors, donc ça, c'était le séjour de 2014. En 2013... nous avions été un agritourisme et un véritable agritourisme. C'est-à-dire qu'en Italie, des fois, il y a des agritourismes où c'est un restaurant qui est à la campagne. Tandis que là, c'est un agritourisme dans lequel on mangeait, en gros, à part le sel, on mangeait que des produits de l'exploitation. Mmh. Et alors, ce que l'on avait fait le matin, c'était une petite activité, je ne veux pas employer le mot travail, mais une petite activité avec les agriculteurs. Tout simplement pour
didactique, parler et connaître le nom des produits.
Voilà, les dames. Gestes. Les dames s'étaient occupées de fromage, et puis moi j'avais été dans les champs, donc avec Marléo. Et notre activité était quand même moins. C'était le premier séjour qui était organisé, c'était moins dense. Et donc là, cette année, on a fait plus copieux. Quoi. Et on espère faire un peu plus copieux l'année prochaine. On a un projet qui serait de faire une pièce de théâtre avec Renato Sibille, qui, comme il est metteur en scène, il pourrait nous aider. Donc il faudrait répéter peut-être d'abord apprendre le texte quoi, en France, apprendre le texte en Italie par des acteurs italiens qui trouveraient, se réunir une fois et puis ensuite faire une représentation en Italie et puis en France.
Mais est-ce que tu peux rappeler un petit peu comment est née cette idée d'immersion ?
Alors l'idée d'immersion m'est venue un jour, alors que j'allais chez Marlio dans les Langues, et c'est à côté de Bra.
Un endroit superbe. Hein.
Voilà. Et cet agriculteur utilise de la main-d'œuvre par une association qui s'appelle Woofing. En gros, il prend des stagiaires qui sont payés ou peu payés, mais par contre, ils les hébergent et ils ont un emploi du temps, ils ne travaillent pas 10 heures par jour. Quoi. Et ces gens-là, Mario et Isabelle, sont des gens formidables. Donc la présence de cet échange sur place m'a donné l'idée de faire donc des séjours d'immersion avec une activité avec eux le matin.
On rappelle que, puisqu'on parle des cours d'italien, que tant pour ces renseignements et ces informations relatives à l'immersion qui va être renouvelée hein, à l'intérieur de l'association, alors sous la forme à déterminer, mais avec les objectifs qui sont eux aussi à préciser, mais qui sont déjà dans la tête, on va dire,
voilà.
Ceux que tu as déjà évoqués. Donc, on peut s'adresser à INIS. Alors,
INIS, c'est INIS en minuscule INIS @ alicadsl.fr.
Alors là, donc, pour ces stages d'immersion et des informations, évidemment, mais on peut aussi s'adresser à INIS pour s'inscrire au cours d'italien, dont la saison va recommencer fin septembre, début octobre, qui a encore cette année sans doute 7 groupes de niveau, et il y a presque une centaine d'inscrits pour l'instant, pas loin en tout cas, Et il y aura de nouveau cette année un groupe de débutants, de deuxième année, etc. etc. Donc, tous les auditeurs qui aimeraient faire de l'italien, souhaiteraient en refaire, parce que on a un peu différentes populations, c'est-à-dire soit des gens qui ont fait de l'italien qui n'en ont plus fait depuis longtemps, soit des personnes qui ont eu envie d'en faire et puis qui n'en ont jamais pu en faire.
C'est mon cas.
Parce qu'il n'y avait pas dans leur lycée ou autre la langue italienne. Et puis il y a aussi quelquefois même si je répète ce qu'on a déjà dit souvent, mais INIS n'est pas une association d'immigrés italiens, même s'il y a évidemment dans les adhérents quelques immigrés italiens. Alors parmi ces gens qui ont des origines italiennes, certains n'ont jamais, comme souvent d'ailleurs, appris l'italien, ni parlé l'italien à la maison, ni entendu parler l'italien à la maison, et souhaiteraient retrouver par ce biais leurs racines. On a tous les cas de figure. Hein, vous pouvez vous adresser simplement à INIS avec, tu répètes le...
Alors, le INIS, mail. En minuscule INIS, @ Alice, ALICEADSL.fr.
Voilà, et puis, puisqu'on en est sur le mail et les informations, vous trouvez toutes les informations concernant INIS et ses activités sur www.italinorizer, tout en attaché sans accent, .com.
Alors, sur les séjours d'immersion, pour l'instant, on en a fait deux dans le Piémont. Ils sont de courte durée, ils sont de 5 jours. C'est-à-dire que ça va du lundi au samedi matin, de telle façon à ce que ceux qui nous reçoivent puissent vivre un peu, quoi. Parce que je vois Natalia, cette année, elle s'occupait de nous, quoi.
Bien sûr.
Donc, 5 jours, c'est un peu court pour aller très loin. Donc, quand on aura épuisé les ressources du Piémont, on ira ailleurs.
Oui, puis ça a quand même l'avantage aussi pour les personnes qui veulent s'y rendre, soit s'ils sont encore en activité professionnelle, de prendre des séjours courts, finalement, de congés. Et pour les autres, bon, ils auraient peut-être qu'un peu plus loin, mais si c'est en des jours supplémentaires, ils seraient quand même d'accord. Mais l'idée du Piémont et de la proximité est intéressante, surtout que le Piémont...
Enfin, c'est 200 kilomètres, c'est 10 jours.
Oui, c'est ça, hein, on ne se rend pas compte qu'on est très vite en Italie, finalement. On est à l'étranger, mais très près.
Exactement. Et on verra le mois prochain avec l'émission sur les escartons, on n'est peut-être pas à l'étranger d'ailleurs.
Oui, enfin après on a aussi toute la caractéristique des frontalines de montagne, on a des tas d'histoires communes, et bien sûr. Voilà, on va illustrer tout ça par une première chanson. Alors j'ai choisi volontairement, évidemment, comme tu parlais du Piémont, puis ça va me permettre une transition avec la suite. On va écouter Vincenzo Ciaccio Marchelli. Alors pourquoi Ciaccio? Parce que comme beaucoup de Piémontais, Vincenzo, qui est donc né en Italie et dans le Piémont, a émigré sur une courte période quand il était tout enfant. Enfin, ses parents émigrés l'ont emporté avec lui en Argentine et puis il est revenu. Il a dû émigrer, il avait 2 ans, il est revenu, il avait l'âge de 8 ans. Et comme on l'appelait le petit garçon, le muchacho, donc il a gardé ce diminutif de Ciaccio. Alors, Ciaccio Marchelli, cette chanson, elle a été recueillie, c'est une chanson traditionnelle qui a été recueillie dans la province d'Alessandria et qui parle, elle s'appelle Carlin Passadella. Carlin Passadella, alors pourquoi? Parce que ce Carlin, il est à la recherche d'une jeune fille et puis il l'a trouvé, la Carlotta. Et le problème, c'est que la Carlotta, je ne sais pas si la Carlotta est d'accord, mais son père n'est pas du tout d'accord. Alors ça se complique un petit peu, et donc le Carlin en question, il rentre chez lui, puis il explique à ses parents que le père, il veut pas marier sa fille, il veut pas la donner en mariage, parce qu'il fallait passer directement au mariage, hein. Il n'était pas question d'avoir une période d'apprentissage.
Il fallait pas vivre dans le péché.
Et il veut pas, alors les parents de Carlin lui disent, écoute, s'il veut pas te donner la Carlotta, qu'il la mette dans une barrique, qu'il mette de l'eau, du vinaigre, et qu'il la ferme la barrique, et qu'il la conserve à l'intérieur jusqu'à ce qu'un jour elle dise oui à quelqu'un. Donc c'est évidemment plein d'humour, plein de... Et ce Vincenzo Marchelli, il fait partie du groupe Arion Dassa, qui est un très bon groupe du Piémont, et je vous en dirai deux mots après. Alors on écoute donc Vincenzo Ciaccio Marchelli dans Carlin Passadala.
Carlin passar da là, gli adesso buonasera. Carlin passar da là, gli adesso buonasera. Gli adesso buonasera, tutta la gente qua. Oi disa la Carlotta, sarà vasa cena. Gli adesso buonasera, tutta la gente qua. Poi disa la Carlotta, sarà vasa cena. Sì sì, io sa cena, mamma portè la banca. Sì sì, io sa cena, mamma portè la banca. Ma la porta la banca, che se tu noi e noi, la banda la Carlotta e dall'altra suo amor. Ma la porta la banca, che se tu noi e noi, la banda la Carlotta e dall'altra suo amor. Si sposa, c'ha meglio da me pari, se io da essi sposa, c'ha meglio da me pari, c'ha meglio da me pari, e per tutti le parenti, se io da essi sposa, il mio cuore ti potè, c'ha meglio da me pari, e per tutti le parenti, se io da essi sposa, il mio cuore ti potè. So pari a rispondere, mi venne maridella, so pari a rispondere, mi venne maridella, mi venne maridella, la vecchia marida, se vecchia la marida, carrella venne andà. Mi venne maridella, la vecchia marida, se vecchia la marida, carrella venne andà. Torna a casa, sbatti il capello per terra, Carlinga torna a casa, sbatti il capello per terra, sbatti il capello per terra, sbattiva su Taulin, oh mamma, la mia mamma, mi dai la Carlotin, sbatti il capello per terra, sbattiva su Taulin, oh mamma, la mia mamma, mi dai la Carlotin, so Maria risponde, chi vivi la vostra figlia, so Maria risponde, chi vivi la vostra figlia. Chi vivi la vostra figlia, mi te la timbucal, o delle patte in brus, che se la pensa conserva. Chi vivi la vostra figlia, mi te la timbucal, o delle patte in brus, che se la pensa conserva.
Alors comme tu le vois et comme l'entendent les, enfin comme tu entends plutôt et les auditeurs aussi, et ce Vincenzo Marchelli n'engendre pas vraiment la mélancolie.
Il a l'air gai.
Il a l'air gai. Alors en fait, il construit lui-même certains de ses instruments et il a une voix phénoménale. Et moi, je l'ai vu, donc, c'est ce qui me permet la transition, au Festival Andebalicante de Rovigo, où Inis est présent chaque année, ou en spectateur, ou en co-organisateur. C'est un personnage assez extraordinaire, qui en plus a une sensibilité, sous des airs très, entre guillemets, déconneurs, est aussi d'une sensibilité très particulière, mais qui est un grand, grand chanteur, un grand bonhomme. Il était accompagné là d'un autre membre du groupe Ariondas, qui est un gars qui joue de l'accordéon diatonique, et c'est assez fabuleux. Alors, il faisait partie de la programmation, Alors, Andebalicante, on aime aller à ce festival parce que il en était cette année à sa 13e édition, parce que c'est un festival sans prétention, bon enfant, mais d'une grande qualité musicale et humaine, j'allais dire, parce que c'est en un lieu unique, au Monastère delle Olivettani, et le soir, il y a les concerts, il y a des apéritifs musicaux, il y a des stages, et tout le monde se rencontre.
Rovigo,
c'est en bas de Venise, pas loin du delta du Pô, hein, à deux pas du delta du Pô même. C'est pour ça d'ailleurs que l'année passée, le thème du festival était le Rhône et le Pô, avec les deux deltas présents de Camargue et du Pô. Et donc on aime vraiment aller à ce festival. Et si j'en parle, ben comme chaque année au mois de septembre, on en fait un petit compte-rendu, c'est parce que le président de la Mineliana, à l'association qui a fondé ce festival, Mario Cavriani, et le directeur artistique Roberto Tombesi, sont vraiment des gens qui, on dirait, tiennent la route et qui font de belles choses sans vanité, avec une certaine abnégation. Et tout est beau, même leur programme est beau, la calligraphie, le graphisme est beau. Et vous les verrez, on en parlera tout à l'heure, vous les verrez dans notre région au mois d'octobre, parce que... Ben, poussé un petit peu par eux, on organisera nous aussi un festival de musique traditionnelle. Alors le festival de Rovigo cette année s'est déroulé sur deux soirées. Et qui, pour la programmation des concerts, le premier soir, il y avait tout d'abord un groupe de maîtres très intéressant, qui est une chorale mixte, hommes et femmes, mais mixte aussi parce que c'était une chorale multiethnique. Et dedans, il y avait maître, on dirait la banlieue de Venise, mais c'est beaucoup plus gros que Venise. C'est la ville, en fait, alors que Venise...
C'est très industriel.
Très industriel. Et il y a énormément de travailleurs immigrés à Mestre. Et cette chorale, à l'intérieur, il y avait des Sénégalais, Nigériens, Ukrainiens, Roumains, Polonais, Italiens, bien sûr. Et chacun... faisait un solo dans sa propre langue qui était repris. Les autres ont appris la langue du premier, si j'ose dire. C'est un beau symbole. Et c'est en plus du symbole, c'est fabuleux. C'est vraiment d'une qualité vocale assez exceptionnelle. Après, il y avait le premier soir un groupe grec qui s'appelle Oligon, fondé d'ailleurs par un musicien italien qui vit en Grèce depuis des lustres. Et puis enfin, il y avait un hommage à Matteotti, qui était donc un homme politique italien. On fêtait là les 90 années de Matteotti, de sa mort, parce que Matteotti avait été assassiné, était un député socialiste qui avait été assassiné sous le fascisme pour s'être opposé.
Ah oui, mais il y en a eu un autre après de Matteotti.
Non, c'est bien sûr. Je pense qu'on parle du même là. Et donc il y avait un hommage sous forme de pièces de théâtre et de chansons accompagnant ces pièces de théâtre, chansons relatives à cet homme. Et puis le lendemain soir, il y avait donc notre ami Vincenzo qu'on vient d'entendre, plus un groupe qu'on va entendre après, un groupe de jeunes Italiens du Sud, l'ensemble Giuliano Gabriele, qui sont de la région de Frosinone, qui parle à beaucoup de Lyonnais, parce que il y a une grosse immigration de Frosinone à Saint-Symphorien-d'Ozon, toute la couronne lyonnaise, mais un nombre incalculable de gens viennent de Frosinone. Et d'ailleurs, Giuliano, on en discutait avec lui, me dit mais je connais cette histoire parce que mon grand-père lui-même avait immigré à Vénissieux, donc c'est étonnant, mais c'est vrai que tout le monde est dans cette zone de couronne lyonnaise. Alors sinon, il y avait aussi un groupe belge, Cecilia, et il y avait des conférences, notamment sur les chansons en hommage à Matteotti. Enfin, tout ça est toujours très, très riche et très intéressant. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce festival en Debalicante, mais encore une fois, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est toujours au mois de septembre, le deuxième ou le troisième week-end du mois de septembre, quelquefois le premier, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, on va écouter justement ce jeune chanteur Giuliano Gabriele et son groupe. Alors, Giuliano Gabriele, qui est sans doute le plus vieux du groupe, et il doit avoir 24 ans, est parti d'une idée. Il est très imprégné de musique traditionnelle, comme beaucoup de musiciens du Sud, mais lui, il est parti sur l'idée du rythme, et notamment du rythme de la tarentelle, pour le mettre
au goût du jour,
à la sauce plus moderne. Évidemment, il y a guitare basse, guitare électrique, il joue lui de l'organette.
C'est bien ça, généralement.
L'organette, ok, très traditionnel. Mais c'est pas du tout galvaudé, c'est très bien fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que les spectateurs de ce soir-là, qui évidemment n'ont pas bougé entre les deux groupes, le premier est Vincenzo, dont on a entendu les qualités vocales et qui est très tradition, chanson du monde paysan retrouvé au fin fond des campagnes. Et lui, qui a un aspect déjà d'âge, il pourrait être largement son fils, presque son petit-fils, mais les deux ont eu un succès incroyable parce que les deux font du bon travail, quoi. Alors on va l'entendre dans Liebregante. Alors c'est une histoire de brigandage, puisqu'il y a eu une époque, après l'unité italienne, il y a eu toute une époque dite de brigandage, notamment dans le sud, et notamment en Sicile, où les paysans n'arrivant plus à manger à leur faim, s'étaient révoltés.
C'était organisé.
C'est même une insurrection, hein, carrément, qui avait été d'ailleurs réprimée par la police et de façon très dure. Et il remet une ancienne chanson donc au goût du jour, en faisant un petit peu un parallèle avec des difficultés économiques qui peuvent exister actuellement. Donc Giuliano Gabriele ensemble avec tous ses musiciens, il a son frère notamment à la batterie, et il a une jeune violoniste qui a une formation classique, Lucia Cremonesi, qui est assez exceptionnel. On va écouter donc ce titre de Giuliano Gabriele.
E la prigione, ma tu fatta pregante, va alla montagna e non ti fa chiappa, e tu fatta pregante, va alla montagna e non ti fa chiappa. Senza scarpe pure non ti può fermare. E quando fa la neve e la lena non ci sta, tu pensa alla creatura che non si può scallare. Non trovo popolare a tutto poco appassionare. E non c'è sta cristiana che ti fa la carità. Ma senti che niente, si chi è potente lo fa schiattare. Tu fatta pregante, ma la montagna non ti fa chi a fa. Ma se ti chi niente, se chi è potente non mi fa schietta. E tu fatta pregante, ma la montagna non ti fa chi a fa. Se non fatica una gallina, a chi te la sta la chiena, se la saglio pataterna, chiude tanto non sa appena, sa putana curtallata, a chi fatti in spiona, la maronna colorata. Aglio perdona, ma tu fatta pregante, ma la montagna non ti fa chiappa. E tu fatta pregante, ma la montagna faccia la paia.
Voilà, Giuliano Gabriele, une vraie découverte et bien content de l'avoir découvert. Il va passer en fin 2015 à Lyon, il est déjà programmé à Lyon. Et je ne sais pas, peut-être un petit espoir de le faire venir dans notre région. Voilà, alors on va parler d'un autre festival maintenant, le premier festival de musique traditionnelle. Alors on dit traditionnel, on ne sait jamais, traditionnel, populaire, mais en fait les musiciens souvent de musique traditionnelle ont des formations ou rock ou jazz ou formations classiques, certains même. En fait c'est de la musique tout simplement hein, qui parle beaucoup et souvent du territoire, mais ce sont souvent de brillants musiciens. Et donc ce festival de musique traditionnelle, je disais tout à l'heure qu'on avait été un peu poussé par nos amis. En fait, Inis, qui a 25 ans cette année, depuis longtemps on a organisé des soirées musicales, hein, des soirées d'auteurs-compositeurs-interprètes de différents types, mais on voulait organiser un festival. Et l'an passé, c'était une sorte de défi que nous avions lancé nos amis italiens aimablement, évidemment, en nous poussant, et on l'a relevé. Alors c'est pas de la tarte hein, quand pour une association de relever un défi de ce style, parce que il faut trouver des salles, le moindre détail est à envisager, et puis on est une période dite de crise, je dis bien dite de crise, et tout ce qui est aide financière et autres sont un peu difficiles hein. Enfin bref, donc ce premier festival, alors on a long discuter du nom, c'est toujours pareil quand on essaye de choisir un nom, il en sort beaucoup et rarement un fait l'unanimité, puis finalement c'est le mot estrade qui a été choisi. Pourquoi est trait d'union trad? Parce que estrade, il y a l'idée aussi de scène, et puis trad de traditionnel, puis le S parce qu'on pense que ce sera un festival de qualité. Voilà, alors il va se dérouler en plusieurs phases. Il y a des phases concerts, il y a pas moins de 7 concerts de programmés sur 3 soirées, et puis il y a des rencontres, et puis il y a des moments, on va dire, autour d'un verre, des moments gastronomiques, et des moments de détente, même si les concerts sont aussi évidemment de la détente. Alors, le festival a commencé, en fait, le jeudi 9 octobre, pour ce qui est des concerts, le 9 octobre, à la salle Daniel Balavoine, qui est avenue du Velin, à Villefontaine. Alors tous les concerts sont à 20h30. Hein. Et donc à Villefontaine, on aura un tout petit préambule. On a invité la chorale de Villefontaine, Cantiamo, qui est un chœur de femmes qui n'interprète que des chants traditionnels italiens. Donc c'était normal de leur faire un petit clin d'œil. En plus, ce sont les locales de l'étape. C'était logique. Après, on aura le folk des terres froides, qui fait vraiment de la tradition dauphinoise. Ils chantent même quelquefois en franco-provençal. Et donc, le folk des terres froides, c'est un collectif, en fait, qui est une association qui diffuse des cours de chants, de danse, et qui se produit également sur scène. Et donc, ils vont venir faire la première partie, mais pas que la première partie. La deuxième étant réalisée par Les Migrants. Alors, Les Migrants, c'est un groupe qu'on connaît bien, nous, qu'on a emmené d'ailleurs à Rovigo deux fois, et qui est un groupe qui fait pas du traditionnel, mais qui, ils se définissent même eux-mêmes comme faisant de l'électrotrad. Et puis là, ils ont travaillé sur aussi le répertoire dauphinois traditionnel avec le folk des terres froides, donc c'est tout à leur honneur. Donc je pense qu'ils vont nous sortir des petites choses sympathiques. Les Italiens arriveront ce jour-là, mais évidemment ils ne sont pas programmés parce qu'ils arriveront en fin d'après-midi. Peut-être qu'un ou deux viendra faire un petit bof sur scène, sans doute. Donc je répète, première soirée, Villefontaine, salle Daniel Benavoil à 20h30, l'entrée est à 12 euros. Le vendredi 10, nous serons à Maubec, donc toujours sur le territoire de la Capille, à la Maison du Village. C'est la nouvelle salle des fêtes complètement rénovée, hein, qui est très bien d'ailleurs, où on aura tout d'abord Adjam, le groupe de Jean-Philippe de Peretti, qui lui aussi est venu à Rovigo. C'était un lien évident à faire. Donc à Jam, ce sont des chants, surtout des thèmes traditionnels de la Méditerranée, et notamment de Corse, Jean-Philippe étant d'origine corse. Ensuite, on aura Grazia De Marchi et il Nuovo Canzoniere Veronese. Grazia De Marchi, qui est une interprète remarquable, a longtemps vécu à Vérone, et donc elle a puisé aussi dans le chant populaire de la région de Vérone, même si maintenant elle est retournée à une de ses deux origines en Sardaigne, puisqu'elle habite en Sardaigne maintenant. Donc Grazia sera présente, et après on finira la soirée avec Francesca Trenta et Merit Miri, qui est un groupe donc d'Italie du Sud, donc on va avoir droit au pit Siké, au Tarantelle, etc., Tamoriata. Je pense qu'il y aura une certaine ambiance. L'entrée, là aussi, est à 12 euros et toujours 20h30. Le samedi 11 octobre, à la salle de Lille, à Lille de Dabo, 15 avenue Dubourg, toujours à 20h30, donc je répète, tout le monde connaît la salle de Lille. Là, une entrée à 15 euros parce que la soirée est un peu plus longue et il y a beaucoup de musiciens sur scène. On aura en première partie Merle Rouge. Alors Merle Rouge, c'est un trio formé par les profs et intervenants du conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu, enfin territoire Capi d'ailleurs, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce festival, et on organise la soirée du samedi ensemble. Et donc vous aurez un trio qui interprétera des musiques traditionnelles françaises, et notamment d'Auvergne. Et donc en première partie. Ensuite, on aura l'orchestre qui s'appelle l'Orchestra Popolare delle Dolomiti, qui vient donc des Dolomiti, c'est-à-dire des Dolomites, et qui est un orchestre qui est formé à partir de 7 groupes du Trentin, de Vénétie et du Frioul, qui ont travaillé sur un projet de manuscrit qui a été retrouvé en montagne, qui était un manuscrit de morceaux qui étaient joués souvent par des petits orchestres locaux, et puis qui est complètement tombé en désuétude, dans la poussière. Certains même de ces morceaux ont été ramenés par des immigrés du Trentin qui étaient partis au Brésil et qui sont revenus. Et Roberto Tombesi, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fondateur du groupe Calicanto, a eu cette idée de retravailler sur ce manuscrit avec des copains musiciens d'autres groupes. Au départ, ils sont pris au jeu de dire on travaillera ensemble, on fera un spectacle ou deux, mais maintenant ils sont tellement demandés que, d'ailleurs, ils vont enregistrer un album là qui devrait sortir courant octobre. Et c'est assez exceptionnel. C'est un orchestre avec des instruments de musique traditionnelle, c'est-à-dire violon, contrebasse, cornemuse, puis des chanteuses aussi, mais c'est vraiment c'est un grand moment à mon avis, hein, et je conseille aux auditeurs de venir parce que c'est vraiment un très grand moment musical. Et après l'orchestre Popolare delle Dolomiti, il y aura un bal de finale du festival avec les musiciens qui ont participé aux 3 jours. On proposera aussi un pass pour les 3 soirées. Un pass à 30€ pour les 3 soirées, qui veut venir aux 3 soirées et ne veut pas évidemment payer chaque fois la place à son titre, à son tarif du soir. Voilà pour les concerts. Je disais qu'il y avait des parties aussi musicales, gastronomiques, les 2 lieux. Le jeudi, le vendredi et le samedi, on ira prendre l'apéritif à la Maison Delaunay à Bourgoin-Jallieu à partir de 11h30. La Maison Delaunay, c'est la maison qui continue à vivre et qui est à côté du théâtre, qui malheureusement, lui, n'existe plus. Ces apéritifs musicaux, comme le terme le dit, on aura et de la musique et l'apéritif. C'est un moment de convivialité pour présenter aussi chacune des soirées à la presse et aux gens qui seront présents. On aura une autre petite escale à gastronomie bien sympathique qui se fera, elle, à l'île d'Abo avant le concert du soir, bien sûr. Elle aura lieu à 17h30 au Millennium, qui est 22 avenue du Bourg, et avec l'association In Vino Gaudium, qui est une association de l'île d'Abo qui aide les gens à connaître le vin, hein, une association de dégustation, et là les vins proposés seront italiens. L'île au vin, qui est une cave de l'île d'Abo, et le groupe Ande Cante Bali de Rovigo, qui a le même nom que le festival à l'envers, parce que Ande Bali Cante était le titre d'un ouvrage d'un ethnomusicologue italien qui a été réimprimé par la Minelliana dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour toute information au Millennium, vous pouvez contacter Laure Gontier. Pour les informations sur le festival, vous pouvez téléphoner à INIS soit au 07 86 62 29 77 ou au 04 74 93 41 28 ou sur le site d'INIS qu'on a donné tout à l'heure et qui vous renvoie d'ailleurs au site dédié au festival. On va écouter un petit morceau, puis tu nous donneras peut-être l'autre partie
des autres activités
qu'on proposera à ce festival. Mais on va écouter une chanson de Calicanto qui s'appelle Vilotte Adriatiche, qui est un Calicanto dont une grande partie des musiciens feront partie de l'orchestre populaire des Dolomites. Alors cette chanson Vilotte Adriatiche, en fait c'est l'histoire d'un marin qui part et qui revient, qui est allé participer à plusieurs conflits et qui revient chez lui dans la région de Venise. Donc le groupe Calicante, Vilotte Adriatiche.
Ponte, dopo che la battaglia Geronda perdonasse la Turchia.
Voilà, on entendait beaucoup Roberto Tombesi et Claudia Ferronato, qui est aussi la chanteuse de l'Orchestre Popolare delle Dolomiti. Alors, les autres, il y aura d'autres moments, on va dire, à ce festival. Serge, si tu veux bien nous en donner
alors,
quelques
illustrations. Alors, le vendredi 10 octobre, de 9h30 à 12h30, introduction musique traditionnelle du nord-est de l'Italie, donc la région de
l'Orvigo
et des Dolomites, oui. Présentation donc du projet artistique de l'Orchestra Popolare del Dolomite, ti. Donc j'imagine qu'ils vont nous expliquer
le porte-parole sera sans doute trop.
Il y a une dimension très culturelle quand même.
Voilà, disons que là, cette matinée-là, elle est réservée aux profs du conservatoire de Bourgoin et d'autres conservatoires de la région. Et Roberto Tombesi, il va parler de la musique du nord-est de l'Italie, musique traditionnelle, et de sa transmission au travers des conservatoires. Voilà.
Alors l'après-midi du vendredi...
Il y aura aussi la présence de Gianluca Baldi, qui est un professeur du conservatoire de Castelfranco Veneto, qui est également évidemment de cette région de Vénétie, et par sa présence va être un des points de départ d'un rapprochement entre les deux conservatoires.
Alors l'après-midi de 14h à 16h, table ronde sur les forces et faiblesses des systèmes de transmission des musiques traditionnelles en France et en Italie. Et là seront abordés le rôle des conservatoires dans les deux pays, la place de l'enseignement associatif amateur, et il y aura une pratique et la pratique de la musique collective.
Voilà. C'est la...
Donc là, Roberto Tombesi, Francesco Ganassini,
qui est le directeur de l'Orchestra Popolare dei Dolomiti. Oui.
Et Gianluca Baldi.
Gianluca Baldi, dont on vient de parler. L'après-midi, donc réservé au monde associatif qui opère dans cette musique traditionnelle en général, réservé donc aux associations de Rhône-Alpes, là aussi. Hein.
Alors le samedi 11 octobre, atelier d'instruments, chant et danse ouvert à tous. Donc là, c'est pas
c'est que grand
les...
public.
Voilà, grand
public sur inscription par
auprès
contre,
du conservatoire.
Auprès du conservatoire, oui, parce que évidemment, les. Le nombre de participants est obligatoirement limité parce que...
Donc on peut s'initier aux instruments, même si on n'a
jamais
fait
de... Confirmé ou pas, on peut aller à ces instruments qu'on...
Moi qui n'ai jamais joué, je peux aller faire de la harpe.
Et puis tu vas devenir excellent.
Voilà.
Alors
donc,
tu rappelles les instruments.
L'accordéon diatonique, le violon, la mandoline, la harpe et le chant.
Voilà.
Et enfin, de 14h à 18h, atelier danse du sud de l'Italie, animé par Francesca Trenta.
Voilà, qui est donc la danseuse et chanteuse du groupe dont on a parlé tout à l'heure, qui se produira à Maubec. Et pour...
Et l'après-midi,
oui, voilà.
Du 11 à Majolire. Donc là, c'est le thème sera sur le livre, l'avenir du livre papier. Donc on va pouvoir voir des deux côtés de la frontière. Et ça sera une rencontre animée par Jean Guichard. Chez Majolire, donc en bas de la rue Piétonne.
Voilà, avec Mario Cavriani, le président de l'association Mineliana, qui est une association qui édite des bouquins sur la région de Rovigo et de Polesine, avec Alice Cason, qui est une jeune écrivaine des Dolomites, et Tony Mazzetti, qui est un écrivain de la région des Colli Euganei, ces volcans éteints qui sont derrière Padoue.
Et là, c'est à 14h30.
14h30, oui, tout à fait. Et voilà, alors, si vous voulez des renseignements, encore une fois, allez sur le site de l'INIS ou téléphonez-nous et on se fera un plaisir de vous donner tous les tuyaux possibles. Mais venez à ce festival parce que je crois que c'est quand même une première dans la région. Et il y aura aussi des touristes italiens qui vont venir avec l'Orchestra Popolare della Dolomite, oui. Des gens qui vont au Festival de Rovigo et
donc
puis
qui viennent ici,
ce qui est quand même un beau geste. Voilà. On va peut-être écouter, avant la recette traditionnelle, on va écouter un petit morceau du groupe Altei, qui veut dire le tilleul en dialecte des Dolomites. Et ce groupe Altei viendra lui aussi à l'île d'Abo, puisque l'orchestre des Dolomites sera à l'île d'Abo, parce que Altei fait partie aussi de D'accord. l'orchestre popolare des Dolomites. Donc on va les entendre dans un valzeretto, c'est-à-dire une musique à danser et de valse, évidemment. Au Bouzouki, vous aviez Andrea da Corta, qui sera présent ici, notamment aussi dans les cours de mandoline.
Qu'est-ce que c'est le Bouzouki ?
Bouzouki, qui est plutôt grec, un instrument à cordes. Et il joue de tas d'instruments, Andrea da Corta d'ailleurs, et qui, à Bourgoin, au conservatoire, donnera des cours de mandoline. Voilà, alors tu vas nous donner de tes recettes préférées. Puis alors,
exactement.
On s'est dit qu'il te fallait un accompagnement de qualité. Alors en fond musical, Laurent va nous mettre Giuliano Gabriele, qu'on a entendu en début d'émission, mais avec aussi Alessandro Tombesi à la harpe, ce jeune harpiste de grande qualité, qui lui aussi fait partie de l'Orchestra Popolare delle Dolomites.
Donc
allons-y.
Je vais vous parler des pizzocchieri. La pizzocchieri, c'est une pâte qui vient de la Val Thénine. Alors la Val Thénine, c'est la haute vallée de l'Adda. L'Adda est le troisième affluent du Pô par son intensité, son débit. Il prend sa source en gros à 2000 mètres d'altitude, alimente et traverse le lac de Côme et se jette dans le Pô en amont de Crémone à une dizaine de kilomètres. Alors cette recette, les pizzocchieri, a deux particularités, enfin trois même. Première particularité, c'est qu'il n'y a pas que du blé dedans, il y a du blé et du sarrasin. Probablement qu'on cultivait le sarrasin par là, dans la vallée. Et puis, deuxième particularité, c'est qu'on fait cuire les pâtes avec des légumes et on ne fait pas cuire d'abord les pâtes et ensuite on ne rajoute pas quelque chose avec. Et troisième particularité, c'est que ça tient au corps, quoi. Ça fait en gros 400 calories. Hein. Donc,
cycliste alors.
Voilà. D'ailleurs, l'Adda est une. La haute vallée de l'Adda est assez quelconque en elle-même, vu qu'il y a beaucoup de pommiers industriels du fait que l'Adda a été canalisée. Par contre, à côté, c'est le rêve des cyclistes. Rien que les mots Bernina, Stelvio, Gavia, Mortirolo, c'est formidable, quoi, ça. On a besoin de pizzocchieri, après.
Puis de quelques muscles, quand même.
Alors, en gros, voilà ce qu'il faut pour faire les pizzocchieri. Alors, une chose aussi, le village d'origine, c'est Teglio. Si je dis en français, c'est Teglio. C'est à une dizaine de kilomètres en aval de Tirano. Donc pour 4 personnes, il faut 400 g de farine de sarrasin, 100 g de farine de blé. Alors on voit qu'il y a majorité de farine de sarrasin. Là, j'ai pris la recette officielle sur Internet. Par contre, on peut en acheter dans le commerce aussi, où il n'y a que 25% de sarrasin. Donc on a on va dire que c'est du blé et du sarrasin, dans des proportions diverses.
De toute façon, c'est comme beaucoup de recettes. Hein.
Oui.
Et on peut avoir des variantes même à quelques dizaines de kilomètres.
Mais là, ça va quand même. C'est vraiment, les proportions sont inversées, quoi. Donc 200 g de beurre, 250 g de fromage Casera. Alors, je n'ai pas trouvé ce que c'était, ce fromage Casera. J'ai vu une autre recette avec du fromage de Bito.
Oui,
Bito,
c'est très bon.
C'est très bon, très bon, très cher.
Il y a beaucoup d'excellents fromages en Piémont.
Et
pas connu du tout.
Bito, c'est fait dans une petite vallée par 5 ou 6 agriculteurs. Ouais. La petite vallée est la dernière en rive gauche, avant que l'Adda se jette dans le lac de Côme.
C'est un fromage d'appellation, d'ailleurs.
Un petit peu de parmesan. Bon, dans la recette, il y a marqué Grana, mais moi, comme je suis moitié romagnol, je pense qu'il vaut mieux mettre du parmesan. 150 grammes. 200 g de choux, 250 g de pommes de terre, de l'ail, sel et du poivre. Mais d'une manière générale, on peut mettre tous les légumes que l'on veut. Si on veut colorer, on peut prendre de la carotte dedans. Alors, il y a une chose quand on lit la recette, c'est que le voisinage de la pomme de terre et de la pâte, on a l'impression que c'est un peu lourd, mais il y a peu de pommes de terre dedans et ça passe très très bien. Alors, on peut soit faire la pâte en prenant les deux farines, soit acheter dans le commerce des pizzocchieri. Moi, j'en ai acheté à Auchan, à Gravellano, qui est à côté du lac Maggiore, mais dans tous les Auchan d'Italie, il doit y avoir possibilité d'en acheter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cuire d'abord les légumes, donc dans l'ordre qu'il faut, parce que si vous mettez des feuilles de choux, ça cuit plus vite que des carottes. Et une fois que les légumes sont à peu près cuits, enfin, une fois que les légumes sont dans la cuise pendant 5 minutes, on rajoute les pizzocchieri qui doivent cuire de 10 à 15 minutes. Et comme toutes les pâtes, il faut goûter, quoi. Et au moment de servir, donc, on rajoute le fromage. Voilà, et il y a du vin de Val Thénine, on peut voir du vin de Val Thénine avec.
C'est excellent tout ça, donc...
Des pizzocchieri.
Là aussi, si vous souhaitez avoir la recette détaillée, vous vous adressez à Inisat, adsl.fr, et vous étiez bien sûr sur Couleur FM 97.1.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.